Et dans le plat de Rissant jusqu'à 13h, on va revenir aujourd'hui sur le 8 mars. C'était vendredi dernier, journée de grève féministe et de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Avec notre reportage depuis la manif, on s'intéressera aussi à la lutte contre la LGV autour d'un nouveau collectif qui s'est créé le mois dernier, le collectif LGV d'Estraya, qui s'est installé dans le Réolais. Et puis à 13h, ce sera le guide du Bordeaux colonial, où, dans lequel vous pourrez entendre le parcours de vie de Jiga, née en 1941 dans un village de montagne en Kabylie, et son combat pour la défense de la berbérité. Voilà, et on commence avec quelques infos en bref. L'université Bordeaux-Montaigne et Sciences Po Bordeaux ont voté la mise en place du congé menstruel au sein de leur institution. Un vote dans le cadre de la commission de formation et de la vie universitaire, la CFVU. À partir de septembre prochain, donc, les étudiantes qui se présenteront avec un certificat médical qualifiant des règles douloureuses pourront ainsi justifier leurs absences de cours dans la limite de 15 jours de congé menstruel par an. Selon France 3, le syndicat étudiant UNEF et les étudiants de Bordeaux-Montaigne avaient collecté près de 300 témoignages d'étudiantes pour formuler cette proposition et avaient récolté plus de 500 signatures en faveur du congé menstruel. Le congé menstruel qui fait son apparition dans de plus en plus d'entreprises et de collectivités pose de nouvelles problématiques dans le monde professionnel. La porte-parole du collectif Nous Toutes, Violaine De Filippis Abbat, rappelle dans l'Humanité que ces mesures doivent s'accompagner d'un droit pour toutes et tous à plusieurs jours d'arrêt maladie sans délai de carence. Une alternative soutenue aussi par la CGT pour pallier au risque de discrimination par le patronat. Et puis toujours à l'université, notez que l'UNEF Bordeaux organise une distribution alimentaire et de produits d'hygiène à l'université Bordeaux-Montaigne aujourd'hui, mercredi, entre 17h30 et 19h, pour lutter contre la précarité étudiante et sensibiliser aux problématiques que rencontrent les étudiants et étudiantes. À Bordeaux, la famille de Sandra Plat, tuée par son ex-conjoint le 2 juillet 2021, porte plainte contre l'État pour faute lourde, selon des informations révélées par France Inter. Traquée et harcelée par Michael Fallou, son ex-conjoint, Sandra Plat avait pourtant porté plainte pour violence en dès janvier 2021 et déposé une demande d'ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales de Bordeaux, une demande qui avait été rejetée en mars 2021. La jeune femme avait également écrit au procureur de la République et cherchait à déposer une seconde plainte pour harcèlement fin mars, un dépôt de plainte qui lui avait été refusé et s'était transformé en simple main courante. Michael Fallou, lui, avait été placé en garde à vue le 29 juin. Il en était ressorti sous contrôle judiciaire et moins de 36 heures plus tard, il poignardait son ex-conjointe de 55 coups de couteau. Il sera jugé pour ses faits aux assises de la Gironde le 4 décembre prochain. Dans la procédure de faute lourde contre l'État, la famille reproche au juge des affaires familiales d'avoir rejeté l'ordonnance de protection ainsi que l'absence de poursuite après les nombreuses plaintes de Sandra Plat. La famille relève aussi le refus de la police d'enregistrer l'une des plaintes pour harcèlement. On rappelle que la famille de Shainez Daoud, tuée par son mari en 2021 également, a assigné aussi, elle aussi, l'État en justice pour faute lourde et cette affaire est toujours en cours. En Allemagne, maintenant, le groupe Volcan, un collectif Vulcan Group, a annoncé avoir incendié un pylône à haute tension dans la banlieue sud de Berlin, provoquant ainsi une coupure d'électricité dans l'usine Tesla locale, propriété d'Elon Musk et de son groupe. Les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi 5 mars dernier. Selon le groupe Volcan et son communiqué, qui a été traduit en français par le site sansnom.noblog.org, eh bien Tesla estime son préjudice économique à plusieurs centaines de millions de dollars, puisque chaque jour sans production coûte 50 à 60 millions de dollars et que la production devrait mettre quelques jours à reprendre. L'usine produit à peu près 6000 SUV électriques par semaine. Et le groupe Volcan, dans son communiqué, déclare, donc c'était en début mars, en cette veille du 8 mars, nous avons donc allumé un phare contre le capital, le patriarcat, le colonialisme et Tesla. Si nous voulons vaincre des géants comme Tesla, nous avons besoin de nombreuses formes de résistance. La nôtre en est une parmi tant d'autres. Et puis on termine avec une mobilisation qui a lieu aujourd'hui à Bordeaux, mobilisation européenne contre pour le plafonnement du trafic aérien. c'est le réseau Rester sur Terre et l'Union française contre les nuisances des aéronefs qui unissent leurs forces et appellent à cette mobilisation. Aujourd'hui, donc 13 mars, dans plus de 20 villes en France ainsi que plusieurs villes européennes, leur revendication, c'est que le trafic européen soit plafonné au niveau de référence au-dessous du niveau de référence de 2019, tout en s'assurant de la diminution du bruit, de la pollution de l'air et des émissions de CO2. Le trafic aérien qui avait baissé suite à la pandémie de Covid-19 et qui a aujourd'hui retrouvé son niveau de 2019. Donc, à Bordeaux, le rendez-vous, il est à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, devant le hall d'embarquement qui se trouve au niveau de la station aéroport du tram A. Et c'est entre 17h et 19h aujourd'hui. Midi 15 sur la Clé des Ondes, on revient maintenant sur la journée du 8 mars. Bonjour Myriam.
Bonjour Baptiste.
Tu étais dans la manifestation féministe vendredi dernier à Bordeaux.
Vendredi dernier s'est tenue la marche féministe du 8 mars, organisée par l'Assemblée Générale Féministe de Gironde. Selon l'intersyndicale, plus de 8000 personnes ont défilé à l'occasion de cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Cette année, de nombreux drapeaux palestiniens ont fleuri dans les rangs des manifestants et des manifestantes. Et avant le départ du cortège, les prises de parole féministes ont été ponctuées par de nombreux appels au cessez-le-feu à Gaza. À ce sujet, on écoute tout de suite Caroline et Marie, membres de l'AG Féministe.
Ça a toujours été intégré au combat féministe. Ce qu'on a dit dans les émissions différentes émissions de radio, c'est qu'on ne peut pas être féministe et vouloir juste perpétuer les autres oppressions. Donc on est féministe, on est antiraciste, on est anticolonialiste. Les événements, la guerre en cours, le génocide en cours, bien sûr qu'on est contre, bien sûr qu'il faut y mettre fin. Donc depuis la manifestation du 25 novembre où on avait une banderole clairement en défense du peuple palestinien, on maintient cette ligne.
Là c'est important aussi de se positionner parce que souvent on a une vision du féministe blanc un peu de complètement à l'ouest des luttes sociales en cours et c'est pas le cas. Et autant l'an dernier on était très axé sur la réforme des retraites parce que c'était l'actualité, là c'est la Palestine parce que ça fait sens aussi pour nous.
J'ai aussi croisé Lisa, étudiante en sociologie de 20 ans, qui était drapée d'un drapeau palestinien. Elle nous explique pourquoi c'était important pour elle de porter ces couleurs.
Pour moi, à chaque fois qu'il y aura une manif, une représentation d'une minorité ou quoi, il faudra toujours rappeler aux gens que c'est pas fini. On en a beaucoup parlé à la télé, sur les réseaux et tout, et je vois qu'en ce moment, ça s'essouffle. Les gens, ils ont été engagés 3 semaines et maintenant, plus personne n'en parle, de moins en moins. Donc c'est juste pour rappeler, en fait. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres gens qui en avaient, donc c'est cool, j'avais peur d'être la seule à venir comme ça, mais non, au final.
Il faut tout de même rappeler, Baptiste, que le contexte au Proche-Orient a cristallisé les tensions lors du 8 mars, notamment à Bordeaux. Avant que la manifestation ne débute, une vingtaine de femmes du collectif Nous Vivrons ont brandi des pancartes pour dénoncer les viols subis par des femmes israéliennes lors des attaques du Hamas en octobre dernier. Elles ont été repoussées pacifiquement par le service d'ordre de l'AG Féministe. Marie, que nous avons déjà entendue tout à l'heure, nous explique pourquoi.
Alors déjà c'est une journée de lutte et de grève féministe, donc on part du principe que les organisations d'extrême droite sont interdites dans nos manifs. Et Nous Vivrons c'est une organisation qui tend à l'extrême droite, donc déjà rien que ça c'est la limite. En plus c'est une organisation qui est islamophobe, qui ne reconnaît pas le génocide de Gaza, qui en dénonçant les crimes de guerre qui ont eu lieu en octobre par le Hamas, essaye de rabâcher toute une propagande anti-palestinienne qui légitime le génocide et pour nous c'est pas possible. Voilà. Et donc on a dit que dans le cortège féministe n'étaient les bienvenues que les personnes qui, un, reconnaissaient qu'il y a un génocide en cours à Gaza, parce que c'est trop grave. Et en plus, l'extrême droite n'est jamais été la bienvenue et n'est pas la bienvenue, et même la droite en règle générale. Donc voilà, donc c'est pas possible, pas de poche dans nos manifs, pas de terre dans nos manifs, pas de personnes qui légitiment des génocides.
À la suite de cette journée, le collectif Nous Vivrons a dénoncé cette exclusion par voie de communiqué de presse en critiquant le positionnement politique défendu par l'AG Féministe. Dans un communiqué diffusé la veille, l'AG avait déjà justifié sa décision tout en rappelant que les crimes du 7 octobre étaient, je cite, « intolérables » et qu'elle condamnait l'utilisation du viol comme arme de guerre. « La liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, a été inscrite dans la Constitution ce vendredi 8 mars. Une date symbolique choisie par le président de la République pour proclamer cette nouvelle loi. On écoute maintenant la réaction de la sénatrice écologiste de la Gironde, Monique de Marco, qui s'était félicitée de ce vote au Congrès.
Je pense que bien sûr, le président et le gouvernement vont s'emparer de ce sujet pour en faire justement aujourd'hui de la communication. Mais enfin, qu'importe, il faut passer outre la communication et se dire que néanmoins, on a obtenu quelque chose de très important. Premier pays au monde donc, à inscrire donc, le droit à l'IVG dans la Constitution. Et également, je pense que ça fera boule de neige et ça met bien sur le devant de la scène un peu les combats féministes depuis plusieurs années. Que les femmes ont mené et c'était quand même un aboutissement. Mais il ne faut pas lâcher parce que maintenant, il va falloir avoir des moyens pour mettre ceci en œuvre. Et on voit bien dans les milieux ruraux qu'il y a des problèmes d'accès à l'IVG, qu'il y a donc des déserts médicaux, qu'il y a des difficultés. Donc maintenant, deuxième étape, il faut demander donc, lors de la loi de finances rectificative des moyens complémentaires.
Un combat pour l'accès à l'IVG qui se poursuit donc depuis la loi de dépénalisation de 1975 portée par Simone Veil, une figure féministe toujours présente chez la jeune génération, à l'image d'Emma, jeune lycéenne de 17 ans, qui raconte 50 ans après l'importance de Simone Veil à ses yeux.
L'an dernier, moi, j'ai fait mon oral sur elle et j'ai eu 100 sur 100. Et elle m'a beaucoup aidée aussi à me motiver. Intérieurement et tout, et elle a fait bouger des choses, même en moi et même dans ma famille, dans mes proches, avec mes amis et tout, et même elle m'a fait pleurer, clairement.
La fin du parcours de cette marche féministe a été aussi marquée par une action du collectif Collage Féministe Bordeaux. Une banderole a été déroulée sous l'arche de la Porte de Bourgogne où les manifestants et les manifestantes ont pu lire les noms des plus de 900 victimes de féminicides recensées depuis 2017, c'est-à-dire le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. J'ai tendu mon micro à Elisa et à Ambre, deux jeunes femmes de 19 ans, encore très émues après leur moment de recueillement.
Et je trouve ça très très fort. Ça fait, je sais pas, ouais, y a une espèce de boule qu'on n'a pas avec les chiffres qu'on nous montre à la télé ou quoi. On est là, ah ouais, quand même et tout, mais là on le voit directement. Quoi. C'est très différent.
Aussi, ça fait froid dans le dos. Ouais. Enfin, ouais. Vraiment, moi, c'est quand je suis arrivée devant, c'est oula.
Ouais. Et puis, on voit que c'est tout le monde, ça va de 13 ans à 12 ans à 70 ans. Et on se dit, bah ah ouais, c'est partout. Ouais. Ouais.
Là, c'est vraiment hyper concret. C'est devant nous. Hein. De toute façon, on ne peut pas la rater, là, aujourd'hui. Et oui, c'est très bien d'avoir fait ça, parce que c'est très parlant. Là, on ne peut pas faire plus parlant. Ouais. Et en plus, avec les bougies, là, par terre. Oui. Merci à elle d'avoir fait ça. Quoi.
Alors, il faut savoir que la veille, les murs situés près de la Porte de Bourgogne avaient aussi été recouverts par les colleuses des 134 noms de victimes de féminicide de 2023. Le matin du 8 mars, tous les collages avaient été enlevés et les murs entièrement nettoyés. Alex a participé à ce collage qui s'est déroulé dans la nuit du 7 au 8 mars. On l'écoute.
L'année dernière, c'était donc le collage a été fait au Cacons et il avait été aussi nettoyé très vite l'après-midi. Le lendemain après-midi, il commençait à être nettoyé. Là, c'était encore plus rapide. Donc c'est bien, on n'a même plus besoin d'avoir les fachos pour enlever nos affiches. Hein, la mairie le fait pour nous, enfin pour eux surtout. Et bah, c'est d'autant plus dommageable hein, 8 mars d'enlever le nom de ces femmes, de ces féminicides qui ont eu lieu en 2023. De juste enlever ça comme si c'était rien, même pas nous laisser ça au moins pour la journée. Mais bon, on a l'habitude malheureusement d'avoir nos collages décollés, mais c'est vrai que c'est toujours décevant de voir que c'est de plus en plus rapide.
Après avoir été interpellé sur les réseaux sociaux par le collectif Collage Féministe Bordeaux, le maire Pierre Urmic a fini par préciser qu'il n'avait pas donné l'ordre au service de nettoyage de décoller ses 134 affiches. Il a également présenté ses excuses, rappelant que ce combat était aussi le sien. Et puisqu'ils n'y sont plus, je vous propose de nous quitter en écoutant les noms de quelques-unes de ces victimes, scandées vendredi dernier par une militante féministe. Merci à tous.
Geneviève, Amélie, Edina, Malgorkaza, Amélie, Caroline, Cindy, Hélène, Sylvie, Audrey, Giovanna, Manon, Fatima, Alima, Siamine, Laurence, Marina, c'est trop!
Et merci beaucoup Myriam pour ce reportage donc dans la manif du 8 mars. C'était vendredi dernier à Bordeaux. Et puis il est midi 25 sur Aclédon, on va continuer avec un petit peu de musique.
Cuna con nombre de virgen. Bajo la luna todos los santos la bendicen. De mal casaña rejuntada o eso dicen. Tiene mal aje y mal carácter como toda su estirpe. Madruga tras la faena un padre nuestro. Enfadada con Cristo besa la medalla al cuello. Vestido de lunares y flores en su pañuelo. Traguito el suelo y pa'lante no hay tiempo pa' duelo. Acostumbrada a echar un puñadito más al puchero. Come su sangre, come su calle y el barrio entero. Carmen sabe de dolores, del amor de sus mujeres. De lo malo de la noche y del veneno. Con esos andares saben lo que fue de joven. Conocen en la calle sus cantares por la lole. Se ensucia las manos que ninguna madre llore. Por los costales raja y sale la rabia de pobre. Dicen que nada le duele porque no la ven llorar. Y a tu corazón y al suyo no debieran escuchar. Carmen, es un incendio de tiene miedo, ella ya estuvo en los infiernos. Sobre la tumba ese diablo le bailó. Por cuatro duros calentaba los inviernos. Y por su mamá los chiquillos nunca le faltó. Ahora en la casa amor, en la calle respeto. Gana su chito en cinco y baja al parque con el nieto. Ya se ganó su puesto, al resto más vale les guarden. No hay quien les toque, la familia la Carmen. Se paren pa' las puertas de su casa abiertas. Que las gitanas vienen a pedir consejo. Saca el café y una libreta pa' la cuenta. Dice que los saberes compartidos llegan más lejos. Con la frente marchita ya no piensa en volver. Aroma romero y los dineros guardan el sostén. Ya no hacen daño los vestigios del ayer. Con los suyos bendecidos al río tiran clavel.
Dicen que todo le duele. Y al alba tiene nadie, es un incendio de aire. Carmen, que mira pa. Carmen, Carmen,
Carmen, que díselo.
Carmen, es un incendio del aire, no la detiene nadie. Carmen, Carmen, Carmen,
¡chata!
Carmen, es un incendio del aire.
Carmen de Tribadé et Maroucha Limon avec un mauvais accent sur la clé des ondes. Midi 29 dans le plat de résistance, on continue et on s'intéresse maintenant à la lutte contre la LGV, la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Bordeaux-Dax, avec un nouveau collectif qui pointe le bout de son nez, qui a été créé en février dans le Réolais. C'est le collectif LGV d'Esraya et c'est Léa Perron qui a interviewé une de ses membres qu'on écoute tout de suite.
Je m'appelle Léonie Ré, je suis habitante de Pont-d'Aura, donc pas très loin de la Réole.
Est-ce que tu pourrais me présenter du coup ton collectif LGV d'Esraya, de quel constat il est né?
Effectivement, le collectif, il est né vers Pont-d'Aura et Puy-Barbant, qui sont deux petits villages, donc pas très loin de la Réole. Il a été créé à l'initiative de juste quelques habitants. qui se sont rendus compte que ben, vers chez nous, on est très peu informés du projet de LGV parce qu'on n'est pas sur le tracé. Et ceci dit, même des gens qui sont sur le tracé sont très peu informés, en fait. Mais voilà, les gens d'ici se sentent très peu concernés, quoi. Et donc, on a été quelques-uns à se dire, bon, ça va pas, il faut qu'on contacte, en fait, qu'on organise une réunion publique au début dans nos petits villages pour informer les gens, tout simplement, de ce qui se passe, des différents impacts, jusqu'à même sur nos territoires qui sont pas non plus sur le tracé. Et donc on a organisé cette réunion publique à l'Aréole en se disant on va pas faire juste dans nos petits villages, on va essayer de faire un truc un peu plus gros dans la ville la ville du coin, quoi.
On y reviendra après sur l'événement qui a eu lieu le 16. Donc vous, votre objectif avec le collectif, c'était vraiment d'informer les habitants et les habitantes du Réolais. Je voulais revenir un petit peu sur toi, ton collectif, LGV Desraya, qui fait partie d'un ensemble de collectifs locaux qui se sont constitués contre les nouveaux projets de LGV, hein, donc des lignes à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, et Bordeaux et Dax. C'est donc tout un tas de collectifs qui se sont créés tout le long du tracé, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout le long du tracé, et du coup pas seulement avec le nôtre, vu qu'on s'en éloigne, mais effectivement on est de plus en plus nombreux. Il y a des collectifs qui existent depuis le tout début du projet, donc depuis 2006, ça commence à remonter, et de nouveau se crée encore actuellement, et avec le début des travaux préalables, les gens qui s'opposent à ce projet se multiplient, quoi. Et effectivement, tous ces collectifs sont regroupés sous la bannière de l'intercollectif LGV Non Merci, qui fait le lien entre les différents collectifs, qui rassemble toutes les informations et qui s'occupe de distribuer, en fait, un peu, enfin de distribuer. Il permet de, à la base, en fait, c'était la création d'un site, LGV Non Merci, qui regroupait l'ensemble des informations. Ce site, il est accessible en ligne par tout le monde, il est très bien fait, et il permet voilà, justement de voir toutes les actualités, tous les tenants et les aboutissants de ce projet, quel que soit le lieu sur le tracé ou pas, voilà, très général. Et donc, il permet aussi de faire le lien entre les différents collectifs.
Actuellement, il y en a combien ? Tu en comptabilises combien des collectifs anti-LGV ?
Il y en a beaucoup. Alors, j'ai pas le nombre en tête. Il y a des collectifs qui se sont créés uniquement pour ça. Je pense que là, il y en a au moins une trentaine, je dirais. Mais après, il existe pas mal de collectifs qui étaient déjà existants, qui se battent sur des questions environnementales en général et qui ont pris le sujet de la LGV, un peu comme une priorité, mais qui ne traitent pas que de ça. Et il y a aussi des gros collectifs qui s'opposent, collectifs ou associations d'ailleurs, qui s'opposent au projet de LGV officiellement, mais qui ne traite pas que de ça. Je pense par exemple à ANV COP 21, donc à Action Non Violente, à la Confédération Paysanne, à Terre de Liens. Enfin, voilà, ça c'est des associations nationales qui rejoignent la lutte.
Pour revenir un petit peu sur ce projet, enfin ces projets de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, est-ce que tu peux me dire un peu ce qu'il en est et quel est le projet du gouvernement ?
Alors, effectivement, le projet du gouvernement, c'est donc d'ouvrir une double ligne à grande vitesse, j'ai envie de dire, donc qui partirait de Bordeaux pour aller d'une part à Toulouse. Et donc entre Bordeaux et Toulouse, il y a le petit village de Bernos-Bolac, qui serait le lieu d'un carrefour. Et à ce niveau-là, donc la ligne se diviserait en deux, avec une partie qui irait vers Dax. Ce projet-là, il devait coûter avant inflation. Donc je crois que c'était en 2014. Ils avaient estimé un budget à 14 milliards d'euros. On ne parle pas de millions, on parle de milliards. Ça, c'était avant inflation, donc ça va probablement doubler. Aujourd'hui, les travaux préparatoires ont commencé. Alors, ils ne parlent pas de travaux, ils parlent de travaux préparatoires parce que les travaux officiellement ne peuvent pas commencer. Ce serait illégal parce qu'il y a encore des recours en cours, des recours juridiques, des recours administratifs. Il y a une enquête publique qui a été lancée en 2015, il me semble, où il me semble que c'était 95% de la population a prononcé un avis défavorable à ce projet.
90%, il me semble.
Alors, ouais, 90, il y a eu un peu plus de personnes encore depuis, et je crois que ça a augmenté. Et il y a aussi 5 collèges d'experts qui ont été interrogés, et les 5 se sont prononcés défavorablement. Mmh. Donc sur des aspects financiers, environnementaux, etc. Donc aujourd'hui, le projet, il est finalement un peu stoppé par ces recours. On ne sait pas vraiment, à part le président de la région Rousset et la présidente de la région Occitanie, donc région Nouvelle-Aquitaine et région Occitanie Rousset et Delga, et quelques personnes, finalement, il y a quand même beaucoup plus de gens qui se prononcent contre. On ne comprend pas bien pourquoi ce projet continue, mis à part pour renflouer les poches de grands entrepreneurs comme Vinci, Lafarge et compagnie. C'est un questionnement au niveau des citoyens qui est quand même... Comme tous les gros projets actuellement, hein. C'est un projet d'un autre temps, il a été imaginé dans les années 90. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout à devoir gagner quelques minutes sur des trajets. Ce projet n'a aucun sens, en fait. Mmh. Ce serait un désastre environnemental, social, d'un point de vue démocratique aussi, parce que du coup, on n'est pas du tout entendu, et c'est seulement une partie de la population qui doit payer pour un trajet qui serait utilisé par quasiment que des métropolitains, finalement des gens qui voudraient aller un peu plus vite, juste gagner quelques minutes entre Paris et Toulouse. Mmh. Donc les gens qui sont sur le tracé et qui payent pour cette construction, pour ce projet, n'ont aucun intérêt là-dedans, quoi. Donc c'est pas démocratique, c'est pas... Voilà, ça n'a pas de sens.
Donc pour revenir un petit peu sur les conséquences environnementales de ce projet, est-ce que tu peux me les expliquer ?
Alors, les conséquences environnementales, elles sont multiples. Hein. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais pour commencer, ça détruirait donc des terres classées à forte biodiversité. Il y a au moins une dizaine de... il y a une dizaine de terres Natura 2000 qui seraient traversées par cette ligne. Des espaces protégés, des espaces humides qui seraient détruits. On a par exemple la vallée du Ciron qui est très emblématique parce que c'est des espaces protégés extrêmement riches en biodiversité qui seraient ravagés. Il y a une hêtraie millénaire notamment qui serait détruite à tout jamais, quoi. Les sols seraient tassés, fragmentés. La ligne, c'est pas seulement le passage des rails, en fait, c'est tout un terrassement sur plusieurs centaines de kilomètres. Il y a des haltes aussi, entre autres. Enfin, c'est tout ce territoire-là, il serait complètement détruit, en fait. C'est pas juste on pose des lignes et le train va passer par là. C'est plusieurs centaines de mètres sur des kilomètres qui seront tassés et découpés en fait en détruisant tout sur son passage, quoi. Il n'y aurait plus de sol. D'ailleurs, c'est un réel problème parce qu'il n'y a pas vraiment de sol, en fait, notamment dans la vallée du Ciron. C'est très sableux, donc il faudrait creuser énormément pour créer une surface dure. Il y a la question de l'eau aussi. Pour bétonner tout ça, il faut puiser dans les nappes phréatiques. Il faut d'abord pomper l'eau du sol pour créer une surface, en fait, pour poser les rails. Mm-hmm. Donc la question de l'eau, elle est extrêmement importante. Ce serait des litres et des litres pompés dans les nappes et rejetés à côté. Et d'autre part, il y aurait besoin d'apporter... De l'eau encore, mais c'est même pas celle-là qui serait réutilisée, hein, d'après le projet du GPSO, de la société. Ce serait une autre eau qui serait apportée pour bétonner, donc des milliers de tonnes de béton. Il y a 17 aqueducs qui sont prévus juste au niveau de la vallée du Ciron, parce qu'il y a plein de petits affluents du Ciron qui doivent être traversés. Donc à chaque fois, c'est pareil, il y a des ponts pour faire passer la voie. Il y a un endroit où elle doit passer carrément au-dessus de l'autoroute, donc on est à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Voilà, tout ça, c'est énormément de béton et une fracturation du paysage où du coup les espèces ne pourraient plus passer. Il y a plein de petits animaux qui ne pourraient plus traverser d'un côté à l'autre des voies et du coup qui seraient finalement réduits à s'isoler génétiquement, en fait, carrément. Donc il y a un impact sur la biodiversité qu'on maîtrise pas, en fait, qui est largement pas assez étudiée par le projet, qui est dénoncée par un grand nombre d'experts environnementaux. Moi, je vous invite à aller voir sur le site LGV Non Merci. Hein, il y a beaucoup de choses présentées, des éléments très précis. Vraiment, j'invite les gens à s'informer et à suivre parce que il y a énormément de détails qu'on connaît pas, quoi. Et c'est vrai que plus on creuse et plus on se rend compte des impacts lourds et divers sur nos territoires. Et on parlait notamment de l'environnement. Il y a aussi l'aspect climatique plus généralement qui est en jeu parce que ne serait-ce que les travaux de ces LGV là vont détruire des forêts qui sont des puits de carbone. Donc, d'un point de vue climatique, ça aurait un impact assez lourd hein, quand on voit le nombre de kilomètres sur le tracé et le fait aussi de la consommation des TGV qui est quatre fois plus importante que des trains normaux. Hein, pour rouler à 360 km/h, il faut une quantité très importante d'énergie. Et donc, à l'heure où on dit qu'il faut réduire nos consommations énergétiques, là, on voudrait finalement l'augmenter juste pour gagner quelques minutes. Bon, d'un point de vue climatique, c'est pas des solutions qu'on cherche, quoi. Et ça, il faudrait aussi pour alimenter ces trains ouvrir de nouvelles bases, donc par exemple des champs de photovoltaïques à la place des terres agricoles, des lignes à très haute tension. Donc tous ces projets-là, ils sont réels. Il y a des collectifs aussi qui se montent uniquement pour ça et ils sont probablement très liés à la création de cette nouvelle voie. Donc voilà, en fait, les aspects, ils sont vraiment multiples et qu'on soit sur le tracé ou pas, il y a un impact pour tout le monde et à beaucoup de niveaux.
Donc ça, c'est pour les conséquences sur l'environnement et la biodiversité. Et donc, on l'évoquait un petit peu, mais tu l'as dit, ce projet, il est estimé à 14 milliards d'euros. Ça, c'était des estimations donc, avant inflation. Et donc, c'est un projet qui repose sur un financement conjoint entre l'État, potentiellement l'Union européenne, mais rien de sûr encore, et les collectivités locales et territoriales qui vont prélever une taxe supplémentaire auprès des habitants et des habitantes. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça fonctionne ?
Du point de vue de la taxe, on en pâtit déjà, hein, parce qu'on la paye déjà. Il y a une petite ligne en dessous de... Enfin, notamment sur la taxe foncière, il y a une petite ligne qui est allouée. Donc, c'est la TSE, la taxe spéciale d'équipement, qui aujourd'hui n'est pas très élevée, mais à l'avenir, vu que le budget risque d'augmenter et que l'Europe n'a pas accepté de payer la totalité de ce projet, parce que l'Europe, elle serait intéressée pour payer un trajet international, donc qui irait jusqu'à l'Espagne, mais c'est là pour l'instant, c'est plus du tout d'actualité. Le Pays Basque s'est complètement opposé à ce projet, donc ça n'irait pas du tout jusqu'en Espagne, de toute façon. A priori, les collectivités récupéreraient aussi la part de l'Europe, sachant que les collectivités... du moins celles qui ont signé l'accord pour payer la part de ce budget récupéreraient donc tout ce qui ne serait pas payé ni par l'Europe ni par l'État, donc toutes les augmentations possibles, etc. Donc la taxe que notamment les habitants payent, elle est vouée à augmenter.
Et il n'y a eu pas de consultation auprès des habitants et des habitantes concernant cette taxe?
Absolument aucune. C'est passé au Parlement un peu sous silence. Elle a juste été donnée sans vote, sans rien. C'est arrivé comme ça, d'un coup, d'un seul. Et c'est apparu sur les impôts fonciers des habitants, sans même les informer de cette nouvelle taxe.
Aujourd'hui, elle s'élève à combien cette taxe ?
Ça dépend des impôts fonciers, mais c'est aux alentours de 3 euros. Pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais à l'avenir, ça peut aller jusqu'à peut-être 100 euros. Là, on n'est pas du tout à l'abri d'une augmentation, et on en aurait au moins pour 40 ans le temps des travaux. Mais comme on le sait tous, généralement, ça continue même après les travaux. Donc, c'est une taxe qui se rajoute à toutes les autres, sans qu'on ait été concerté, sans qu'on soit même d'accord, hein, parce que l'opinion générale s'est quand même opposée à ce projet. Donc, a priori, les gens ne sont pas d'accord pour payer ce projet. Et il est possible, par contre, de la refuser, cette taxe, de refuser de la payer, en fait, tout simplement. Alors, c'est un acte de désobéissance fiscale. Il y a des explications, des tutoriels qui sont donnés notamment sur le site, comment ne pas payer cette taxe. Il suffit en fait de la déduire de l'impôt foncier ou de l'impôt sur les entreprises et en faisant donc juste varier le montant. Évidemment, on s'impose, on peut avoir une amende pour refuser de payer cette toute petite partie-là, mais l'amende, elle est ridicule. Je crois que c'est 10% de la TSE, donc c'est quelques centimes. Voilà. Et si on est très nombreux, donc là, on est en train de travailler, notamment avec l'intercollectif, à trouver un aspect justement juridique collectif au refus de payer cette taxe. Mais voilà, si on est très nombreux, ça peut aboutir à quelque chose. Mmh. Il est aussi possible, si on a déjà payé ses impôts, de faire un courrier en disant qu'on refuse de payer cette taxe.
Pour revenir un petit peu sur l'utilité de ces nouvelles lignes à grande vitesse, le tracé de ces lignes vise à reproduire les liaisons ferroviaires qui existent déjà, en apportant un gain de vitesse très relatif, puisque ce serait de l'ordre de 10 minutes sur le tronçon Bordeaux-Dax, par exemple. Vous, c'est ce que vous dénoncez, c'est l'inutilité aussi de ces lignes et le fait que les trains quotidiens ne soient pas pérennisés.
Oui, c'est ça. En fait, à quoi bon gagner quelques minutes ? Cette liaison, elle existe déjà. On peut déjà se rendre entre Bordeaux à Toulouse, par exemple, on s'y rend en 2 heures. À quoi bon gagner quelques minutes, sachant que des études ont montré que depuis le Covid, il y a beaucoup plus de gens qui télétravaillent, donc beaucoup moins de demandes de se rendre d'une métropole à l'autre, finalement, pour le travail. Là, ce dont on a besoin, c'est effectivement des trains du quotidien qui fonctionnent, qui s'arrêtent dans les gares, qui ne soient pas en retard, pour tous les gens qui prennent le train pour aller travailler notamment, mais pas que. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent même à déménager parce qu'ils ne peuvent plus se rendre à leur travail, parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer avec les trains du quotidien, parce qu'il y a trop d'annulations, trop de retards. Et tout ça, c'est dû à un manque d'entretien des lignes. Il y a une personne, un ancien cadre de la SNCF qui s'appelle Germain Suisse, qui fait aujourd'hui partie du collectif de l'association Transcube, qui a démontré avec des arguments très très simples, enfin par des faits en fait, que ces lignes, si elles étaient rénovées et mieux réparties, si les trajets étaient mieux répartis, on pourrait augmenter la quantité de trains qui roulent, on pourrait faire en sorte que le trafic soit beaucoup plus fluide et on n'a absolument pas besoin de cette nouvelle ligne. C'est vraiment du superflu en fait. On se demande pourquoi, à quoi bon créer une nouvelle ligne. Alors on nous dit que c'est pour désengorger les trains du quotidien, pour le RER bordelais, etc. Donc l'idée ce serait de... par exemple au sud de Bordeaux, donc ce qu'ils appellent il y a la question de la nouvelle ligne et les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, les AFSB, et les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, les AFNT. Et en fait, ça c'est relatif notamment au TER. Et la question était ce qu'ils proposent, c'est de fluidifier les trains et de multiplier les trains entre Bordeaux et les agglomérations autour. Mais le problème, c'est que ça ne fluidifierait pas du tout ces transports. Ils proposent d'ouvrir une troisième ligne, notamment au sud de Bordeaux. En réalité, pour le nouveau TGV qui devrait passer par là, finalement, il faudrait utiliser cette troisième ligne et une autre ligne pour les allers et retours. Donc finalement, on perdrait une ligne sur les lignes qui sont déjà existantes. On ne voit pas en quoi ça aiderait à fluidifier les transports. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on ne mesure pas du tout, qui sont complètement passées sous silence et qui sont données comme des mensonges, clairement. Il y a un article de Mediapart très clair suite à une présentation d'Alain Rousset sur ce projet qui reprend 11 points qui sont faux, en fait, clairement.
Pour revenir un petit peu sur... toi, ton collectif et la mobilisation qui a eu lieu le 16 février à La Réole, vous avez organisé votre première réunion publique. Il y avait des élus locaux et différents acteurs et actrices de cette mobilisation. C'était quoi la volonté de cette réunion ?
Oui, la volonté de cette réunion, c'était au tout début d'informer les gens. Donc le but était de réunir un maximum de personnes. Il y a eu un gros travail de terrain de fait pour informer les gens déjà qu'on allait faire cette réunion, d'essayer de les toucher en leur disant qu'ils étaient quand même concernés et que c'était vraiment important de venir s'informer sur les impacts de ce projet. Et l'idée était d'essayer justement de toucher des gens qui n'étaient pas forcément au courant. Donc le travail de terrain était particulièrement important. On a été sur le marché de l'Aréole directement pour informer les gens, discuter. On a tenu un stand, on allait distribuer des tracts pour informer de cette réunion. On a eu quelques refus aussi, des gens très fatalistes qui nous disaient bah, « de toute façon ça va se faire ». Donc on leur répondait que non, ça ne va pas se faire. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes par exemple et plein d'autres projets ne se sont pas faits. Suite à des mobilisations des citoyens, donc ne surtout pas être fataliste. Et effectivement, cette réunion, donc, elle a permis de regrouper pas mal de gens, d'abord pour informer et aussi pour remobiliser et se rendre compte qu'on est nombreux. Le but, c'était vraiment d'essayer de regrouper différents collectifs, des élus, des citoyens, des gens qui sont à la base pas forcément militants, hein, comme nous dans le collectif. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout militants avant. Voilà, juste de montrer qu'on est très nombreux en fait à s'opposer à ce projet. Et finalement, on cherche les quelques-uns qui sont pour. Donc la question de ceux qui se mobilisent pas encore, c'est probablement qu'ils sont soit mal informés, soit pas du tout informés d'ailleurs, soit fataliste à se dire bah, de toute façon ils font ce qu'ils veulent, c'est toujours comme ça, ça va passer et ça sera quoi. Donc nous on est là pour montrer que non, on est nombreux, il y a des experts qui sont sur le coup, il y a beaucoup de collectifs qui se montent de plus en plus, on a des élus derrière nous quand même qui ont fait un moratoire, qui font pas mal d'actions, qui se regroupent, il existe un collectif d'élus. Donc il y a beaucoup de gens qui sont là. Voilà, il faut montrer. Je pense que c'était très important de montrer à l'Aréole la diversité de dans l'opposition, quoi, dans l'opposition à ce projet. Mmh.
Est-ce qu'il y a des, enfin, qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion? Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises collectivement?
Non. Alors le but n'était pas de prendre des décisions lors de cette réunion. C'était vraiment d'abord d'informer les gens et de leur permettre d'avoir des clés ensuite pour faire des actions. Donc on a eu beaucoup de gens qui nous ont laissé leurs coordonnées, d'une part pour recevoir les informations, les actualités sur le projet et sur la lutte, et d'autre part pour rejoindre le collectif. Donc ça, on en est très, très satisfaits. Donc maintenant, on va continuer, on va se retrouver en fait, nous, et continuer à construire des actions concrètes pour lutter contre ce projet. Mais le but de la réunion en soi, là, c'était vraiment d'informer et de réunir les gens, de dire voilà, c'est possible, on a une force, c'est la masse déjà pour commencer. L'opinion publique ne peut pas être passée sous silence comme ça. Donc rejoignez-nous et ensemble. On va agir, quoi. Il se passe déjà, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont en cours, hein. Là, les travaux préparatoires viennent juste de commencer. Il y a déjà eu une action en janvier à Saint-Médard-des-Rangs. À Toulouse, il va y en avoir aussi. Voilà, l'idée du collectif, c'est d'organiser l'opposition, en fait. Montrer qu'on est bien là et qu'on ne laissera pas faire les travaux, que ce soit d'un point de vue administratif, juridique, avec le biais des élus, et aussi dans l'action directe non violente. Hein. S'il faut occuper les territoires pour éviter les machines de travailler, ben, on occupera les territoires.
Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres mobilisations là qui sont déjà prévues, qu'on peut annoncer, ou alors est-ce que les gens peuvent vous contacter aussi pour avoir fait de ces mobilisations?
Oui, les gens peuvent nous contacter, bien sûr. Il y a des actions qui sont prévues, en cours de préparation. On ne donne pas forcément toutes les infos tout de suite. D'abord, il y a une organisation à mettre en place, mais évidemment, tout le monde peut nous contacter pour nous rejoindre et pour recevoir les informations. Donc, que ce soit notre collectif pour le réoler, Je peux donner les coordonnées après, ou alors aller voir même la diversité des collectifs sur le site LGV Non Merci. Ça regroupe effectivement tous les collectifs et là il y a tous les contacts pour pouvoir se mobiliser près de chez soi.
Oui, alors je veux bien que tu laisses une adresse mail ou quelque chose si les gens veulent te contacter.
Alors l'adresse du collectif, c'est collectif.lgv.desraya@proton.me à la fin. Voilà. Okay. Collectif LGV Desraya @proton.me.
Très bien. Donc pour avoir des infos sur les mobilisations à venir. Et comment est-ce qu'on peut apporter également notre soutien à vos luttes en signant des pétitions, par exemple, de quoi vous avez besoin?
Oui, bah il y a plein de façons de nous aider. Effectivement, signer les pétitions, c'est peut-être la plus simple. Ensuite, c'est en parler autour de soi et parler notamment du site LGV Non Merci. Il y a possibilité de faire des dons aussi, c'est très important parce qu'on a toujours besoin de financement, ne serait-ce que pour faire de l'information, parce que imprimer des tracts, imprimer des affiches, etc., tout ça, ça a un coût. Et puis surtout pour payer les avocats, parce que les recours juridiques, c'est nécessaire. En fait, il y a plusieurs actions qui doivent se mener en parallèle. Donc l'information, c'est très important. L'action en présentiel sur des mobilisations, des manifestations, etc., c'est essentiel aussi. Donc venir en présentiel sur les rassemblements et aussi du coup mener des actions juridiques et administratives. Et pour ça, d'ailleurs, si on fait un appel large, si des gens, des juristes, avocats, etc., ont des compétences dans le juridique, on est forcément preneur de tout ce qui peut. Je pense qu'on n'a pas encore ouvert toutes les voies et je pense qu'il y a encore des choses qu'on peut trouver pour contrer ce projet d'un point de vue juridique. Alors, ensuite, il y a plein d'autres façons de se mobiliser. Ça peut être aussi faire la cuisine sur des événements, nous aider à les tracter, tenir le stand sur le marché. Il y a vraiment plein de façons de nous aider. Voilà. Mais c'est vrai que les plus simples, c'est signer les pétitions déjà, faire des dons et après venir sur les rassemblements, s'informer. Hein. Il y a une liste de diffusion des informations, soit par Telegram, sur le groupe LGV Non Merci aussi, il y a un lien qu'on peut fournir et directement sinon sur le site LGV Non Merci on peut s'inscrire à la liste de diffusion et recevoir par mail toutes les actualités tous les dimanches.
Et voilà, donc on rappelle encore le site bien complet avec plein de ressources, lgvnonmerci.fr, que les gens peuvent aller consulter. Et donc je rappelle, Léonie Ray, toi tu fais partie du collectif LGV Desraya. Et je te remercie pour cet échange.
Merci à toi.
Merci beaucoup à Léonie Ray et merci à Léa Perron pour cette interview. Avec une chanson de Saint-Levant, chanteur, rappeur palestinien, et ce titre d'Eira.